ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme là.
Bonsoir, Radio Pleine Lune, 3.8 MHz, en femme, Radio Zone. Le remue-ménage s'éteint. Nous quittons Pékin et nous revenons à Genève, dans la zone franche, dans les zones, toutes les zones. Les zones entre deux pays, entre deux histoires, les zones entre la lune et le soleil. En tout cas, maintenant, c'est 93.8 MHz, onde femme, Radio Zone. Dans quelques instants, les nouvelles. Et puis Marjolaine vous ouvre son cœur. Alors nos nouvelles, en Amérique, les Noirs se mobilisent pour la sauvegarde des valeurs viriles. Les femmes étaient priées de rester à la maison.
32 ans après la grande manifestation de Martin Luther King, les hommes noirs sont revenus à Washington défiler à l'appel du leader de la nation de l'islam, Farrakhan. Les femmes étaient priées de rester à la maison. Plusieurs centaines de milliers, peut-être un million de manifestants ont donc convergé lundi sur la grande pelouse centrale de Washington pour répondre à l'appel des organisateurs de la marche d'un million d'hommes noirs censés manifester la volonté de repentir, réconciliation et responsabilité de la communauté afro-américaine. L'initiateur de la marche, Louis Farrakhan, est le leader de la Nation de l'Islam, un mouvement musulman intégriste dont les nombreuses déclarations antisémites ont provoqué de virulentes polémiques. La plupart des orateurs ont insisté sur la nécessité pour les hommes noirs, je dis bien les hommes, au sens tout à fait viril et masculin du terme, de la nécessité pour les hommes de retrouver le sens des responsabilités en travaillant sérieusement à l'éradication des tares qui sont la drogue et le crime, sans attendre rien de l'Amérique blanche, ni de ses lois, ni de ses budgets. Il fallait revenir fier d'être noir, un noir responsable, un noir viril, un noir père de famille, et cela sans l'argent de la nation. Les femmes étaient priées de rester à la maison et la plupart ont suivi cette consigne puisqu'elles n'étaient que quelques dizaines tout au plus perdues parmi les centaines de milliers qui sont venues sur le mail à Washington. Cela indiquait suffisamment que le but des organisateurs avait été atteint, seuls les hommes étaient venus. Plusieurs mouvements de femmes avaient protesté. Ainsi d'ailleurs qu'Angela Davis, la figure historique du mouvement noir des années 60. Mais d'autres avaient au contraire soutenu le principe de la manifestation. L'idée étant celle d'une rédemption quasi spirituelle de l'homme noir, invité à s'excuser de tous ses défauts, notamment auprès des femmes. Il y avait en fait deux manières de lire cette exclusion féminine, celle des féministes insistant sur le caractère macho de l'événement et rappelant après tout l'appartenance musulmane de Louis Farrakhan, et celle des manifestants concentrés sur l'idée d'une contrition purement masculine. Même parmi les orateurs, seules quelques femmes ont été appelées à la tribune, dont l'une des figures emblématiques du mouvement noir, Rosa Parks, dont le refus de céder sa place de bus à un blanc il y a 40 ans à Montgomery avait déclenché l'un des premiers grands mouvements de désobéissance civique. 32 ans donc après la grande manifestation des droits civiques appelée par Martin Luther King, les Noirs reviennent sur le devant de la scène pour réclamer plus d'honneur dans leur famille.
En Afghanistan, les talibans, étudiants en religion, applique un islam ultra-orthodoxe dans les régions conquises, particulièrement à propos du statut des femmes.
Les femmes à la maison. À peine les talibans se sont-ils emparés des rats, pourtant depuis 3 ans sous la poigne des intégristes, que ces talibans ont tenté d'imposer un ordre islamique encore plus strict. Les premières cibles de ces étudiants soldats, qui ont accumulé depuis 1 an les succès militaires, sont les femmes. Depuis la prise d'Herat, la capitale de l'Ouest afghan, celles-ci n'ont plus le droit de travailler et les écoles, fermées lors de la chute de ce bastion pro-présidentiel, n'ont pas été rouvertes aux jeunes filles. « Nous voulons, disent les talibans, créer un gouvernement islamique basé sur les préceptes du Saint-Coran et les recommandations du prophète. Le livre stipule que les femmes ne doivent pas se mélanger aux hommes, ni dans le travail, ni à l'école. Si elles veulent étudier, elles peuvent le faire à la maison, sous la surveillance de leur mari. » Les talibans ont, à Herat, réussi à devenir assez impopulaires. Pourquoi, disent les gens, empêchent-ils nos femmes d'étudier ou de travailler? Tant d'hommes sont morts au cours de cette longue guerre. Nulle part dans le Coran, il n'est dit que nos épouses et nos sœurs doivent rester cloîtrées, affirme tout le monde dans un bel ensemble. Et quand les nouveaux maîtres ont essayé de forcer les jeunes à se couper les cheveux, la rumeur affirme que l'émeute a été évitée de justesse. Toujours est-il que les étudiants religion ont dû prudemment faire machine arrière, ce qui n'a pas été le cas sur le statut des femmes, bien entendu. Car passe encore qu'ils imposent le voile total aux femmes, interdisent la musique, les jeux d'argent et le combat des chiens, personne ne comprend leur acharnement à bannir les femmes de la vie publique, même si tous les chefs fondamentalistes de l'ancien résistance sont d'accord qu'elles doivent porter en tout cas le voile. En attendant, les femmes continuent à se promener dans les rues, ombre gris-bleu, avançant dans la poussière du couchant sous les voiles plissés qui ne laissent voir du regard qu'un éclair sombre derrière une fenêtre de tissu. On dit même que certaines continuent de travailler dans l'administration. Les nouvelles autorités ont été obligées d'autoriser infirmières et docteurs à continuer leur activité. Les représentants des organisations internationales basées à Herat ont même récemment interrompu une réunion avec les barbus pour protester contre leur politique à l'égard des femmes. Comme le souligne le chef de la mission des médecins du monde, nous ne pouvons plus donner nos cours à l'école d'infirmières car les étudiantes ne sont jamais revenues.
Aux Émirats arabes unis, la jeune Sarah devrait échapper à la condamnation à mort.
La famille de l'employeur émirati assassiné par la jeune femme de ménage philippine Sarah Balabagan, qui assurait avoir été violée, a fait savoir qu'elle renonçait à demander la peine de mort contre la jeune meurtrière. Comme le permet la justice islamique, la famille a accepté le diyat, le prix du sang, à la suite d'une intervention du président de la Fédération des Émirats arabes unis. La famille de l'accusé versera donc 150 000 dirhams, environ 200 000 francs français, à celle de la victime. Sarah Balabagan, qui était jugée en appel après avoir été condamnée à mort le 16 septembre, devrait voir donc sa sentence commuée en peine de prison.
Une célèbre militante américaine pro-avortement retourne sa veste et rejoint les rangs des pro-life.
C'était la fameuse Jane Roe, celle qui avait gagné le premier procès favorable à l'avortement. C'est en effet ce fameux procès de Roe versus Wade qui a de fait légalisé l'avortement aux États-Unis. Ce procès, donc, qui demandait le droit à l'avortement, puisque Jane Roe, à l'époque, avait été jusqu'à la Cour suprême des États-Unis en 1973 pour gagner ce procès qui avait donc rendu l'avortement légal pour toutes les Américaines. Depuis, Jane Roe a retourné sa veste. Le 10 août dernier, un retournement qu'elle a expliqué sur les ondes en disant « Avez-vous déjà vu un avortement? Il s'agit d'un bébé. » C'était le moment de s'en rendre compte. Dans la foulée, elle a demandé le baptême, et pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du révérend Philippe Benham, directeur d'Operation Rescue, une des plus célèbres organisations anti-avortement. Pour son association rendue célèbre par ses militants enchaînés dans des cliniques, c'est un encouragement formidable. Mais comment expliquer ce retournement? jusqu'en mars dernier, Jane Roe travaillait dans une clinique où on pratiquait des avortements. Et en mars dernier, l'opération Rescue s'installait juste à côté de la clinique où travaillait la jeune femme. Et au bout de quelques semaines, on a pu la voir se promener en compagnie du directeur de cette opération. Et quelques semaines encore plus tard, elle se met à fréquenter le culte et ensuite, elle est convertie officiellement. Les premières semaines après sa conversion, Jane Roe était encore favorable à l'avortement, pendant en tout cas le premier trimestre de la grossesse. Mais cela n'a pas duré. Le porte-parole d'Operation Rescue, Fonda McKay, disait d'elle, sur un ton assez paternaliste, je cite, « Sa théologie n'est pas encore parfaite. Elle est comme un bébé qui ne comprend pas le monde. Nous allons, je cite, fin de citation, nous allons donc, dit-elle, ou laisse-t-elle supposer, lui laver encore un peu le cerveau. Car maintenant, Jane est contre l'avortement à 100% et elle se répand même de son homosexualité. »
Irruption d'un commando anti-avortement dans un hôpital de Valenciennes, commando dirigé par un directeur de l'hôpital.
Mardi à 7h30, un commando anti-avortement a forcé les portes du service orthogénie de l'hôpital public de Valenciennes, conduit par l'un des directeurs adjoints de l'hôpital, Xavier Dussault, et son épouse. Le groupe comprenait 6 hommes et 4 femmes. Ils se sont enchaînés afin de protester contre les quelques 850 avortements pratiqués dans l'établissement chaque année. Il a fallu plusieurs heures aux sapeurs-pompiers pour rompre les antivols des motos avec lesquels le commando s'était enchaîné. Le directeur Xavier Dussault, qui avait également la charge de chef du personnel, était connu à Valenciennes pour ses positions extrémistes. L'autre directeur de l'hôpital a porté plainte et envisage même des sanctions disciplinaires contre son adjoint qui avait pris un congé afin de pouvoir manifester. Les 10 militants anti-avortement se réclamant de l'association Frères des Hommes ont comparu mardi soir au tribunal de Valenciennes. Ils risquent 2 ans d'emprisonnement et une amende de 30 000 francs. Le procès a été reporté fin novembre.
Europe, la Cour des 15 à Luxembourg juge les quotas de femmes illégaux.
La Cour européenne de justice a jeté un pavé dans la mare de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en décrétant dans un arrêt rendu mardi que les quotas de femmes introduits dans la fonction publique et certaines entreprises sont contraires à la législation européenne. Les juges de Luxembourg, tous des hommes, au demeurant, avaient à se prononcer sur le cas d'un jardinier allemand qui avait posé sa candidature pour devenir chef du service des parcs de la ville de Brême. L'une de ses collègues, aussi qualifiée, travaillant également depuis longtemps dans le même département que lui, se présente également et elle est engagée. S'estimant victime de discrimination sexuelle, l'ambitieux paysagiste, privé de promotion, saisit alors la justice allemande qui ne trouve rien à redire à la loi en question. Il va jusqu'à Luxembourg. Le verdict des juges est sans appel. La Cour a estimé que la loi de Brême imposant des quotas de 50% de femmes dans la fonction publique va non seulement au-delà d'une promotion de l'égalité des chances, mais entraîne de surcroît une discrimination fondée sur le sexe. Des hommes, bien sûr. À peine connu, l'arrêt des juges de Luxembourg a provoqué une vague d'indignation. Le commissaire européen chargé des affaires sociales, l'Irlandais Padraig Flynn, s'est dit extrêmement déçu, estimant que cette décision aura des conséquences sur les politiques visant à surmonter les désavantages subis par les femmes. Pauline Green, la présidente des socialistes au Parlement européen, première formation politique à Strasbourg, a déploré que cet arrêt montrait combien la société ne tenait pas compte des difficultés du monde du travail pour les femmes en Europe. Quant à la présidente des femmes de l'opposition social-démocrate allemande, Karine Juncker, elle a qualifié l'arrêt de macho en déplorant, comme le lobby européen des femmes, que la Cour de justice des 15 soit composée exclusivement d'hommes.
En Allemagne, le Congrès des chrétiens démocrates veut laisser plus de place aux femmes.
Congrès qui s'est réuni à Karlsruhe, le CDU de Kohl veut donc faire plus de place aux femmes. Au plan des réformes internes du parti, deux questions préoccupent essentiellement les délégués, le rôle des femmes et la démocratisation des prises de décision. Les femmes du CDU constatent qu'avec une représentation de 14%, elles sont loin de leurs consœurs au sein des partis socialistes et verts. C'est pourquoi l'Union des femmes CDU, menée par Rita Süssmuth, présidente du Bundestag, revendique l'instauration d'un quota minimum d'un tiers pour ses membres à tous les niveaux de décision du parti.
À Genève, une jeune femme colombienne est expulsée en pleine procédure pénale contre ses ex-employeurs.
Défendue par le syndicat Sans Frontières, Dency Deslerma, ancienne employée de diplomate, s'est donc vue signifier son renvoi en Colombie. Vous vous souvenez de cette histoire, nous en avons déjà parlé. Dency Deslerma est une ressortissante colombienne qui était employée de maison par l'ambassadeur du Suède auprès du GATT. En automne 1993, à la suite d'un violent effort, elle doit être opérée au dos, obligée de recommencer à travailler avant d'être guérie. Elle finit par faire une rechute. Elle est déclarée invalide par les médecins et mise à la porte par son employeur sans un sou. Elle est défendue par le syndicat Sans Frontières et elle entreprend toute une série de démarches, notamment une demande d'expertise médicale afin d'obtenir quelques compensations, soit auprès de son assurance, soit auprès de son ex-employeur. En tout cas, tout ce qu'elle a récolté, c'est un billet d'avion pour Bogota.
Les sans-abri sont de plus en plus souvent des femmes et des jeunes.
Selon un rapport sur l'Union européenne, ce sont souvent des femmes qui, après une rupture conjugale, se retrouvent à la porte. Depuis le début des années 90, le pourcentage des jeunes âgés de 18 à 25 ans et des femmes a fortement augmenté parmi les sans-abri dans les pays de l'Union européenne. Les hommes sans-abri sont surtout des personnes isolées qui n'ont pas pu construire une vie conjugale.
Le dépistage du cancer du sein est un succès en France.
6 ans après sa mise en route dans 15 départements, le programme français de dépistage du cancer du sein s'avère nettement plus satisfaisant que ne le prévoyaient les sceptiques. En 6 ans, on dépiste beaucoup mieux et bien plus tôt la plupart des tumeurs, à tel point que le diamètre moyen des tumeurs est passé de 2 cm à 1 cm, augmentant ainsi les chances de survie.
Rubrique scientifique, la haute montagne ne rend pas les femmes idiotes.
Eh oui, parce que l'altitude rend idiot. Plus on monte, plus la concentration, les capacités verbales et l'habileté à résoudre des thèses diminuent. C'est ce qu'affirment des neurologues américains qui ont étudié sur l'Everest l'activité de nombreux alpinistes. Ces derniers mettent 50% de plus de temps pour comprendre des phrases très très simples à la portée d'un enfant de 6 ans. Et ils n'arrivent à presque pas à prononcer des phrases. Tandis que les femmes, elles, échappent à ce triste sort. Même à 8000 mètres, grâce à la présence de la progestérol, elles résistent mieux au manque d'oxygène et leur capacité intellectuelle reste inchangée. Et pour terminer, j'aimerais encore vous raconter une toute petite histoire qui s'est passée au Caire et qui est rendue compte par un journal égyptien à Londres. C'est une femme qui en a marre d'attendre le muezzin. Elle est là, elle attend. Le muezzin dans son quartier arrive toujours en retard. Alors, cette brave femme du Caire, bravant les prescriptions du Coran, comme elle n'arrivait pas à dormir en plus, elle a appelé elle-même les fidèles à la prière. L'initiative a déclenché une véritable tollée. Voilà, c'était les nouvelles sur la pleine lune 93.8 MHz, Sonde Femme Radio Zone. J'ai encore quelques rendez-vous à vous donner. Et puis ensuite, Marjolaine vous ouvre son cœur, mais en attendant, musica. Alors, nos rendez-vous, eh bien, jeudi 19, grande manifestation unitaire syndicale et populaire. Tous les syndicats appellent à une manifestation pour le plein emploi pour toutes et tous, pour le maintien et la progression du pouvoir d'achat, pour une politique sociale plus juste et plus solidaire. Cette manifestation a lieu le jeudi 19 octobre à 17h30, rassemblement Place Neuve, et c'est appelé par la plupart des syndicats. Autre rendez-vous, on vous en a déjà parlé, vous voulez savoir ce qui s'est passé à Pékin, eh bien venez donc rencontrer les femmes qui ont été de retour de Pékin. Elles viennent vous raconter leurs impressions, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'elles ont pensé, comment est-ce qu'elles ont participé, qu'est-ce qu'elles ont pu en retirer. Cette rencontre se déroulera le 24 octobre, mardi 24 octobre à 20h30, c'est à la salle Anne-Marie Gay. C'est une annexe de l'Institut du Développement, rue Richemont 10, c'est au Paquis. Il y aura entre autres Patricia Schulz, qui était la chef de la délégation suisse, Jane Cottingham, qui était déléguée de l'OMS, et puis encore plein d'autres. Tout cela, donc, c'est le 24 octobre, salle Anne-Marie Gay. Le mardi 24 octobre, il y a également un forum sur la question de la violence dans la famille. C'est organisé par la paroisse de la Servette et le Centre des loisirs des Astères qui vous invite donc à participer à cette réflexion sur la violence dans la famille. Réalité individuelle ou réalité sociale, mais en tout cas qui ne peut laisser personne indifférent. Cette rencontre a lieu à 20h15 à la salle des rencontres de la paroisse protestante. C'est à l'avenue 20. On parlera de la violence dans nous, à l'extérieur, dans la société et aussi les moyens pour résoudre les conflits. Cette soirée sera suivie d'une journée le 25 octobre aux Astères sur le thème de la prévention pour les enfants de 6 à 12 ans. Comment peuvent-ils se protéger de la violence et des agressions? Et puis, encore un autre rendez-vous, c'est une rencontre avec des gens qui viennent de rentrer du Mexique, du Chiapas. Un groupe des membres du comité Viva Zapata ont apporté du matériel médical et ils présenteront un nouveau projet d'aide aux Indiens. Il y aura également des films et puis en plus on pourra manger. Tout ça c'est très bien et ça se passe le vendredi 20 octobre à 19h à la Villa Freundler, c'est 35 rue de Carouge. C'est organisé par le comité Viva Zapata. Si vous avez besoin des coordonnées, vous pouvez nous téléphoner. Et puis, et j'aimerais encore vous signaler, j'arrive, voilà. Une autre rencontre, c'est aussi, c'est ce jeudi, le 19 octobre, une soirée sur le thème « L'accompagnement des malades du sida et de leur famille » à 18h30, c'est à la salle de paroisse de Plainpalais, à la rue de Carouge. C'est une soirée pique-nique avec la présence de Dominique Roulin, qui est pasteur et qui s'occupe des gens qui sont malades. Et comment aider les familles personnellement ou en communauté. Vous amenez votre pique-nique. Vous savez que demain commence la fureur de lire, cette initiative autour du livre et de la rencontre avec des éditeurs et des écrivains, une rencontre moins formelle et en tout cas moins onéreuse que celle du salon du livre. Eh bien, autour de cette fureur de livre, plusieurs librairies organisent des rencontres avec des écrivains. Entre autres, la librairie des femmes, l'Inédite, vous invite le dimanche 22 octobre à une présentation du prochain agenda des femmes en 1996, agenda qui aura pour thème les femmes inventrices, on dit ça? Inventeuse ?
Inventons-le.
Inventons-le. Donc l'agenda des femmes sera présenté le matin et puis de 13h à 16h, Irène Minder-Jeanneret, qui vient d'écrire son livre « Femmes musiciennes en Suisse romande », dédicacera son livre. La librairie du boulevard également vous invite jeudi 19 octobre dès 17h avec un couple qui écrit et illustre des livres pour enfants. Il s'agit de Claude Ponty, illustrateur, et de Florence Sévos, qui écrit pour les enfants et les jeunes adultes. Ils seront là, donc à la librairie du boulevard, le jeudi 19 dès 17h. Et d'ailleurs, le kiosque du boulevard, à partir de jeudi 19, a une très bonne initiative puisqu'ils vident leur cave et ils vendent tous ces livres qui datent un peu des années 70 pour faire de la place. Ça coûtera de 1 à 5 francs et vous pourrez entre autres vous procurer tout ce que vous n'avez pas dans la documentation et la littérature du mouvement féministe et du mouvement féministe suisse en particulier. J'aimerais terminer en vous annonçant que le congrès des femmes suisses sera organisé en janvier à Berne. Et que c'est extraordinaire. Parce que moi, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Vu que le boulevard vide ses caisses, ses caves, je me suis dit, tiens, moi aussi, je pourrais faire ça. Et je suis tombée sur des vieux tracts de 1975 autour du congrès des femmes suisses de 1975. Et le mouvement féministe était très en colère parce que le congrès officiel des femmes suisses avait refusé d'aborder des problèmes comme l'avortement ou l'homosexualité qui étaient trop chauds à l'époque et qui auraient pu créer des conflits. Eh bien, cette année, 20 ans plus tard, imaginez-vous que de nouveau, le Congrès des femmes suisses évite allègrement ces deux problèmes. Et pourtant, on le sait, l'avortement arrivera très bientôt sur le devant de la scène, puisqu'une nouvelle loi est proposée. Alors, à vos balais, mesdames, et à vos tracts, c'est peut-être le moment de repréparer un anticongrès pour 1995. Voilà, c'était terminé. Nos nouvelles, je vous dis au revoir et je vous laisse en compagnie de Marjolaine et de son cœur.
Alors, c'était les nouvelles que nous apprécions régulièrement, toutes les semaines. Et dans quelques minutes, ce sera le mémento de Marjolaine. Nous mettons en attendant un peu de musique, car la musique, nous aimons ça.